I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Bienvenue à tous sur Séances Radio, c'est Fan Footage, le podcast épisode 3. Nous sommes au numéro 21 à Levallois, de retour pour vous parler de Mute, le nouveau long-métrage événement de Netflix signé Duncan Jones qui nous pose beaucoup, mais alors beaucoup de problèmes à nous amateurs de science-fiction. On va vous en parler dans un instant, juste le temps pour moi de vous présenter mes acolytes. J'ai l'honneur de recevoir une fois de plus le grand Moff Tarkin de Fan Footage, mon ami Pierre Delors. Salut Pierre.
Ouais, je suis tranquille.
Wesh, super, ça va. Et nous accueillons aujourd'hui Julien Munoz, journaliste pour Cinématiseur. Salut Julien.
Salut Thomas.
Ça va ?
Ça va très bien.
Allez, c'est parti.
Bon, cette mission, c'est quoi ?
Plus ou moins remis de l'échec au box-office de Warcraft, Duncan Jones s'en est donc allé chez Netflix, qui lui a ouvert grand les bras pour produire ce projet, son projet de science-fiction qu'il développe depuis 2003. Le réalisateur de Moon et Source Code nous plonge donc dans les bas-fonds de Berlin en 2052, où l'on suit les errements de Léo, barman, amiche et muet, incarné par Alexander Skarsgård, qui part à la recherche de sa petite amie mystérieusement disparue, et dans son semblant d'enquête, il va croiser deux chirurgiens américains loufoques et non moins inquiétants, incarnés par Paul Rudd et Justin Theroux. Pour être tout à fait franc, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, là, donc on en sort tout juste. Moi, j'ai juste une seule chose à dire, tout ça pour ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, qui veut commencer ?
Bah, Julien. Malheureusement, ouais, c'est l'expression tout trouvée pour parler de ce film qui est, comme tu le rappelles, est en gestation depuis 2003, qui avait été abandonné à une époque et qui était le projet rêvé de Ken Jones. Et surtout, après Warcraft, on avait envie de le revoir à, à quelque chose quand même de beaucoup plus personnel et beaucoup plus réussi. Parce que moi, je ne suis pas vraiment un gros fan de Warcraft. Et bah, c'est un peu la douche froide quand même, hein, parce que c'est son troisième film de SF. Et c'est le premier où on a le sentiment que la SF est complètement gratuite. L'univers qui avait été mis en place dans Moon et dans Source Code avait au moins été des moteurs narratifs.
Tout à fait.
Ça avait au moins cet avantage. Là, dans Mute, en fait, on a une histoire qui aurait pu très bien se passer aujourd'hui. N'importe où sur le globe.
L'univers SF en fait est un prétexte quoi.
Oui, juste un prétexte décoratif, ornemental, qui est là pour se faire plaisir, mais qui n'apporte rien à la quête du personnage principal ou au personnage secondaire en tout cas.
Voilà. Pierre.
Alors, je vais un peu briser la magie, mais je vais dire que ce film, malheureusement, je ne l'ai pas vu avec Thomas et Julien. Je l'ai vu de mon côté avec ma coloc. Et la première chose qu'elle m'a dit quand elle a fini le film avec moi, c'est « Ah d'accord, mais en fait, ça aurait pu se passer à n'importe quelle époque. » Et c'est vrai, oui, bon, il y a quelque chose de gratuit. Mais en fait, surtout, alors bon, moi, je suis assez fan de... Enfin, je suis assez fan. J'avais beaucoup aimé Moon de Duncan Jones. C'était quoi, 2009
C'est le film qui l'a révélé.
C'est le film qui l'a révélé. Duncan Jones, pour ceux qui ne le connaissent pas, on va quand même préciser que c'est le fils de David Bowie. Moi, j'avais trouvé que Moon, c'était vraiment très sympa. J'adore Sam Rockwell. En plus, c'est lui l'acteur principal. Ensuite, Source Code, franchement, c'était un divertissement SF hyper solide, tout à fait intéressant et à regarder. Warcraft, je dois être un des seuls à avoir un peu défendu le film. Personnellement, j'aime bien Warcraft malgré les gros défauts que je peux lui
reconnaître. C'était quand même le grand écart entre Source Code et Warcraft. On s'était d'ailleurs posé la question pourquoi Warcraft ? Parce qu'il s'était justifié, il adorait l'univers, etc. Enfin,
ouais, et c'était aussi un matériau qui, je pense, était extrêmement difficile à adapter au cinéma.
Très.
Et en fait, mon problème avec Mute, c'est que c'est un film que je ne comprends pas. Je vois derrière les envies qu'il a pu avoir, parce que comme tu l'as rappelé dans ton petit résumé, Mute, on suit un personnage qui est Amish. Donc c'est-à-dire qu'il a placé son... On pouvait se dire que la logique du film de science-fiction était là. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de l'hyper-technologie, puisqu'on est dans les années 2052.
Où les gens sont aliénés, tout ça. Voilà.
Exactement, on est dans une espèce de post-cyberpunk. Mmh. Et le personnage était donc un Amish, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse la technologie et qui vit encore comme au 19e siècle, au début du siècle.
Et qui taille du bois.
Ouais, et qui taille du bois. Non mais... Alors il y a des images très très... Enfin, un peu fines, quoi. Entre, ouais. À un moment, il se bat contre quelqu'un qui a un bras mécanique comme batte de baseball et lui, il a un pied de lit en bois. Bon, la nature contre la technologie, d'accord. Mais si tu veux, je peux comprendre. C'est-à-dire qu'il avait ce personnage qui refuse la technologie dans ce monde d'hyper-technologie. Mmh. C'est-à-dire qu'il peut pas communiquer avec les gens, il a pas de téléphone, en plus, il parle pas, le pauvre.
Il a une platine vinyle, encore.
Ouais. Ah, il a une platine vinyle, oui. Ah, j'ai pas vu
ça. Si, dans son appartement. Il a une petite vinyle.
Bref. Ah, j'ai pas fait attention à ce détail, comme quoi. Et il y avait peut-être quelque chose à faire là, à la base. C'est-à-dire l'étranger qui se retrouve plongé dans un milieu. Et ça m'a fait penser à un film qui est absolument extraordinaire qui s'appelle Hardcore de Paul Schrader. Je sais pas si vous l'avez vu autour de la table, où c'est dans une communauté rurale. Aux États-Unis, où un père voit sa fille fuguer et il part à sa recherche. Et donc c'est une communauté, je sais plus, c'est pas des Mormons, c'est une communauté hyper religieuse, assez restreinte. Et il part à la recherche de sa fille et il se retrouve dans le Los Angeles des années, je sais plus, c'est fin
70.
Ouais, voilà, 70. Et en fait, elle a atterri dans le milieu de la pornographie underground. Et en fait, ce père de famille se retrouve plongé là-dedans à faire le détective pour essayer de retrouver sa fille. Et pendant tout le film, je me disais, mais là, il y avait quelque chose. L'étranger dans un milieu hostile et un milieu extrêmement perturbant, surtout pour cet Amish, quoi. Et en fait, je comprends pas parce que un Amish, d'accord, mais on le retrouve en train de travailler dans une boîte de nuit, dans un bar. Il sort avec une serveuse qui est
dans le monde de la nuit,
complètement le cliché de la fille cyberpunk avec les cheveux bleus. Et je veux dire, mais qu'est-ce qu'il fout là ? En fait, déjà à la base, il y a aucune explication sur comment ce personnage de Léo atterrit ici.
Ouais, c'est tout le problème du personnage qui, par exemple, enfin, tu parles de son côté Amish qui est pas du tout développé par rapport à l'histoire du film, mais aussi bon, le personnage est muet. À cause d'un accident dont on n'identifie pas vraiment la cause. Mais...
Si, il est heurté par des pales de bateau.
Ah, d'accord. J'ai pas compris ça comme ça, en fait.
Si, ça souffre, tu sais, il a la gorge complètement tranchée. Bref, vous verrez.
Mais donc, en fait, son mutisme l'isole du monde, mais en fait, on comprend pas trop pourquoi, en fait.
Mais il l'isole pas, le mec, il a une nana, il a un job, tout le monde le connaît, il a aucun problème, il s'exprime avec des. Enfin, il a aucun problème.
Il bosse dans un bar de nuit,
le
barman.
Le postulat du bar était intéressant par rapport au cinéma de Duncan Jones, où en fait tu te rends compte, hors Warcraft, tous les personnages développés par Duncan Jones sont isolés, en fait. Que ce soit isolé sur la lune dans Moon, ou que ce soit isolé
dans Source Code,
dans la boucle temporelle avec le personnage de Jack Gyllenhaal dans Source Code. Et donc là, il y avait peut-être quelque chose à faire, mais ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on lui reproche à ce personnage pour à part son mutisme, mais je trouve ça un peu facile, quoi.
Ouais. Et personne n'a l'air de tellement le stigmatiser pour son style de vie, en plus.
Ouais.
Donc finalement, c'est pareil, ça passe un peu à la trappe. Et puis il y a ce lieu, donc comme tu l'as rappelé, ça se passe à Berlin. Et là aussi, pourquoi pas, on pouvait faire quelque chose. C'est-à-dire que ce type de science-fiction, on est toujours en Asie ou on est toujours aux États-Unis. Là, il va à Berlin, une capitale européenne. Il y a eu des films de science-fiction à Londres, mais là, à Berlin, je me rappelle pas avoir vu un film de cyberpunk ou post-cyberpunk dans ce pays-là. Et ben, qu'est-ce qu'il en fait encore, tu vois ? Au final, tout le monde parle anglais déjà. Premièrement, il y a un ou deux dialogues en allemand. Et puis surtout, c'est un pays où on a presque l'impression qu'il greffe à ça une espèce d'esthétique de guerre froide Berlin-Est, Berlin-Ouest, parce qu'en fait, on nous rabat les oreilles constamment avec les GI et les Marines américains, et on voit des généraux, on entend parler des bases. Paul Rudd est un GI. Et c'est pareil, en fait.
Des déserteurs. Hein,
un déserteur, ouais. Et au final, ça aurait pu se passer aux États-Unis, ça faisait aucune différence.
Non, mais il y a effectivement un gros souci sur le cadre, l'univers dans lequel le film nous plonge. Mais au-delà de ça, tu le disais, Julien, il y a des très très gros soucis narratifs. C'est-à-dire, moi, enfin. Pareil que toi, je ne comprends pas ce film. Je vois pas où est-ce qu'il va en venir. Il fait quoi ? Il fait 2 heures presque. Il faut attendre, les 20 dernières minutes pour avoir un flashback qui permet de faire converger tout le monde vers. Bon, vous verrez là, vous verrez comment le film se termine. Mais ça patine pendant une heure.
C'est un film qui est dans sa narration avant.
J'ai chronométré ça. L'histoire est lancée un peu plus après au bout d'une demi-heure.
Oh là là.
Et encore. C'est quand même assez.
Et encore, parce que je suis allé. Il y a quelque chose que j'aime bien faire pour ce genre de film, et surtout on peut le faire très facilement avec Netflix, c'est quand on fait avance rapide, le film est découpé en vignettes, comme les chapitres d'un DVD. Et en fait, je regardais scène par scène, et chaque scène était le miroir de la précédente et de la suivante. On était toujours assis en train de parler. Et en fait, le film n'avance.
C'est un film verbeux.
Non seulement c'est un film verbeux, mais c'est un film qui n'avance jamais.
Jamais.
En fait, on pourrait retirer des scènes et les mettre dans des ordres différents, et ça ne changerait absolument rien à la dramaturgie.
Ah non, non, il n'y en a aucune.
Donc ça, c'est quand même hallucinant. Je ne comprenais pas ce choix, surtout venant de Duncan Jones, qui, pour le coup, Source Code, c'était un film qui avançait d'un point A à un point B à la vitesse de la lumière, parce qu'on était dans un train qui fonce.
Oui, il y avait une trajectoire, en fait. Les personnages avaient une trajectoire. Et là, on a vraiment du mal à la trouver. Les personnages n'évoluent pas dans le film.
Ouais, le film est complètement désincarné.
Et c'est comme tu dis, c'est des portraits de personnages assez iconoclastes. Donc, on peut apprécier les contre-emplois de Paul Rudd, de Justin Theroux, tout ça. Mais finalement, comme ça ne construit rien avec le récit, ça s'évapore, quoi, en fait. On s'accroche à rien.
Alors, on s'accroche à rien. Moi, malgré tout, tu vois, malgré tous les reproches que je peux lui faire au film, le personnage principal, donc Léo Alexander Skarsgård.
Oui, il est assez attachant. Hein.
Il est attachant, malgré tout, tu vois.
Moi, j'ai eu beaucoup de mal.
Hein, t'as eu du mal.
Et pourtant, c'est un acteur que j'apprécie, c'est un personnage que j'aurais aimé.
Il y a un truc qui se passe.
Mais moi, je trouve que j'ai été assez détaché du film, en fait, dès le début.
Moi, je trouve que dans le regard, il a quelque chose quand même. Il apporte une émotion, et heureusement, parce que c'est bon. On avait fait un petit peu une petite comparaison avant l'émission avec Thomas sur Altered Carbon et Joel Kinnaman. On a un niveau d'expression qui est un peu plus développé par rapport à ce que fait Joel Kinnaman dans Altered Carbon. Désolé pour lui. Mais moi, la thématique de base, c'est-à-dire ce mec qui refuse la technologie dans un monde d'hyper-technologie et qui part à la recherche de sa femme disparue, ça a beau être un grand classique et on l'a déjà vu mille fois, pourquoi pas, je trouve ça intéressant.
Bien sûr.
Mais encore une fois, dans la thématique, et ce que veut développer Duncan Jones, c'est-à-dire éventuellement donc le personnage isolé, l'aliénation, et le personnage qui se redécouvre, parce que Moon, c'est exactement ça, c'est un personnage qui vit l'isolation au pur sens du terme, on va pas trop raconter si vous l'avez pas vu, et qui se découvre lui-même et qui redécouvre son environnement avec un regard nouveau et qui apprend à voir les choses avec une nouvelle perspective. Là, encore une fois, c'est difficile d'en parler sans trop révéler le plot. Mais alors, je serais même pas capable de donner à la fin une bribe de message ou je sais pas où il veut en venir.
Tout ça pour ça, quoi.
Ouais, tout ça pour ça. Ouais,
mais alors, du coup, pour en revenir juste à la conception du film, Duncan Jones le développe donc depuis 2003. Il a déclaré que c'était son Don Quichotte à lui, en référence à Terry Gilliam, qui avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à développer son Don Quichotte. Le film Mute est devenu aussi un roman graphique, un peu à la manière de Darren Aronofsky pour Noé. Oui. Est-ce que vous avez vu des planches ou pas
du tout. À part les dessins préparatoires qui dataient justement de ces 2003 ou enfin en tout cas après.
Pour voir s'il y avait comme, enfin je sais pas, est-ce qu'il y avait quand même entre les deux médiums, le médium ciné et le médium BD, est-ce qu'il y avait quelque chose qui correspondait, est-ce que quelque chose était beaucoup plus développé dans la bande dessinée, est-ce qu'il y a eu est-ce que vous avez vu passer des critiques de gens qui avaient vu justement lu la BD.
Ce que je dirais, c'est qu'en fait le problème, c'est que entre l'adaptation BD, entre le film, entre le scénario de base qui date, donc je crois que tu disais 2003, c'est ça Julien, c'est que il y a une certaine opacité sur le développement du projet, et il faut savoir que quand Netflix a vendu le film, ou quand on a parlé un petit peu du film, on l'a raccroché justement à Moon en présentant ça comme un univers partagé,
pourtant,
en disant que c'était une suite. Et pourtant,
et là, sur ce point-là, ça va être la grosse déception pour ceux qui l'attendent, vraie suite de Moon, parce qu'à part deux apparitions de Sam Rockwell sur un écran télé,
j'en ai noté une, moi.
Ouais, j'en ai noté.
Il y en avait
une, et on l'entend dans la radio à un moment. Hein.
Ah, d'accord. Okay.
Et puis même des graffitis ou genre libéré numéro, je sais plus le numéro
on se demande ce qu'était le film. Autrefois, est-ce que ça a été raccroché à Moon pour des raisons de conception sur Netflix,
d'argument marketing,
ou d'argument de marketing. Et tu vois, je trouve que le film, pour moi,
mais il paraît que c'est, excuse-moi, je te coupe.
Ouais,
il paraît que c'est pensé comme une trilogie, je crois.
Exactement, ouais, c'est ça. Hein, en fait, Duncan Jones a dit ça dans une interview, c'est qu'il a finalement, le film est devenu une trilogie, Moon étant le premier épisode, Mute le second, et un troisième épisode qui a pas encore de titre, on sait pas s'il sera produit un jour, mais qui raccrocherait les deux histoires, et ce sera la convergence des deux. Parce que, justement, la trajectoire de Moon et celle de Mute, pour l'instant, disons que si vous voulez voir Mute et que vous avez pas vu Moon, vous inquiétez pas, vous allez rien louper.
Non, c'est sûr. Autre chose à rajouter, oui.
Et alors, moi, il y a quelque chose qui m'a aussi assez surpris, c'est que Duncan Jones m'avait habitué à avoir quand même des acteurs, malgré tout, assez solides. Sam Rockwell en tête, évidemment, mais Sam Rockwell, c'est un génie. On le répète pas assez.
Oui.
Même dans Warcraft.
Alors, Golden Globe.
Avec Thomas, on avait eu un petit débat sur Warcraft. Toi, t'étais pas séduit, il me semble, tellement par le casting.
Le casting trop contemporain.
Voilà. Moi, je trouve que dans. Je peux comprendre. Moi, je trouve que dans Moon, il y a un vrai souci de jeu d'acteur. Et dans Mute, il y a un vrai sujet d'acteur. Alexander Skarsgård est bien, mais alors, par contre, les rôles secondaires, y compris Paul Rudd et Justin Theroux, franchement, faut s'accrocher. Il y a des rôles secondaires. Il y a des mecs
qui ont des
petits rôles et qui sont, alors eux, je sais pas s'ils sont dirigés ou en rôle libre, je sais pas comment ça s'est passé, mais c'est vraiment pas très glorieux. Et surtout, je reviens à quelque chose que je répétais pour The Shape of Water. C'est que je suis un peu allergique aux accents russes à deux balles par des comédiens anglo-saxons. Et là, en plus, on a un personnage.
Il y a que toi qui vois ça, pardon.
On a un personnage de russe, moitié africain. Je suis désolé, mais il y a un moment, il faut des coachs plus efficaces parce que là, c'est vraiment, vraiment ringard.
Bon.
On avait droit à tous les stéréotypes.
Ok.
Alors, non, moi, il y a un détail qui m'a beaucoup amusé dans le film, c'est que le personnage Paul Rudd se trimballe toujours avec un couteau. Alors, dont le modèle ou le créateur, en fait, s'appelle Bowie. Et je me suis demandé si c'était vraiment voulu.
Bien vu.
Parce que j'ai fait, c'est un peu gros quand même.
Ouais, bah son personnage est un peu trop gros de toute manière.
Donc voilà,
avec sa grosse moustache.
On se raccroche à ce qu'on peut, quoi.
Mute, c'est sur Netflix. Voilà, on n'est pas forcément super emballé, hein, vous l'avez compris. Mais bon, allez-y, faites-vous votre avis. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On parlait de l'imagerie SF du film, qui est complètement anecdotique, finalement, dans Mute. On va y revenir d'ici quelques instants. On vous le disait, Mute s'inscrit dans l'héritage du cyberpunk, ce fameux courant de science-fiction rendu célèbre par Blade Runner, hein, notamment. Mais du coup, on se pose une question simple. Est-ce que cette filiation a encore sa place dans le cinéma SF d'aujourd'hui, dans le cinéma SF des années 2010? Je crois que Pierre, toi, tu as bien potassé le sujet de ton côté. Alors, je t'en prie, vas-y.
Un petit peu, merci, ouais. J'aime bien le cyberpunk, c'est un de mes genres préférés. Le cyberpunk, juste pour rappeler très rapidement, très brièvement, c'est un peu long. C'est d'abord un courant littéraire qui est apparu donc dans la science-fiction aux États-Unis principalement fin 70 mais surtout début 80, notamment avec ce roman qui est un peu le manifeste du cyberpunk qui était écrit par William Gibson en 1984 qui s'appelle Neuromancer, neuromancien en français, qui est un roman passionnant. Je vous invite tous et toutes à aller lire. Il y a des auteurs comme Bruce Sterling et puis ensuite c'est un genre qui a évolué évidemment vers le cinéma. Est arrivé Blade Runner en 1982 de Ridley Scott, qui partage beaucoup de thématiques du cyberpunk, c'est-à-dire le monde dystopie, donc la dystopie c'est l'opposé de l'utopie, l'aliénation, la surpopulation, la pollution et l'apparition de la technologie omniprésente dans la société. Et qu'est-ce que c'est le fait que...
Société un peu violente aussi. Hein.
Oui, oui, c'est une société profondément inégale, avec un fossé entre les riches et les pauvres qui est extraordinaire. Et le cyberpunk, d'ailleurs, servait à ses auteurs dans les années 80 pour parler de la situation politique et sociale de leur pays, mais à travers le prisme de la science-fiction. C'est-à-dire qu'on voyait les problèmes, mais grossis avec une loupe grossissante fois 10. Et c'est aussi l'arrivée de la culture japonaise, la miniaturisation, les robots, les néons, etc. Ça a beaucoup impressionné ses auteurs.
C'est très fort,
Et Blade Runner en est un peu un des emblèmes, c'est-à-dire que dans Blade Runner on retrouve ce multiculturalisme avec énormément d'influence asiatique.
Oui.
Et donc ce courant finalement a fini par plus ou moins disparaître, hein. C'est pas un courant non plus qui a été toujours très bien représenté au cinéma. En fait, les grands films cyberpunk, on les compte un peu sur les doigts d'une main, hein. il y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de films de cyberpunk, mais il y a pas beaucoup de grands films de cyberpunk. Puis ensuite sont arrivés les films d'animation japonais dans les années 90, qui ont digéré le cyberpunk et qui ont produit notamment Akira et Ghost in the Shell. Ghost in the Shell qui inspire aussi beaucoup Mute.
Oui.
Ghost in the Shell, c'est 95.
Ouais.
Et le problème, c'est que on en parlait un petit peu avec Julien, là, justement, c'est que le cyberpunk aujourd'hui, qui est un genre qui a plus ou moins disparu, peut-être Matrix, c'est un des derniers représentants, 99.
Ouais.
C'est un genre qui parlait avant tout de nous, des êtres humains, de notre rapport au monde, notre rapport à la technologie, notre rapport à l'évolution de notre société, à nos problèmes sociaux. Et aujourd'hui, tous les films de SF un petit peu post-cyberpunk plutôt qui sortent, on a l'impression qu'ils sont enfermés dans cette imagerie extrêmement puissante et évocatrice qu'avait notamment Blade Runner ou Ghost in the Shell, avec des images dont on se souvient tous aujourd'hui. Ils sont enfermés dans les images, mais ils sont pas capables derrière de produire un discours.
C'est-à-dire que oui, c'est un courant qui est très politique aussi, on a perdu complètement ça maintenant. On est vraiment focalisé que sur l'iconographie, l'imagerie.
On a l'impression qu'on est, si on est dans un héritage du cyberpunk, on est en fait dans un héritage de surface,
ouais,
et pas de fond. Je sais pas ce que t'en penses, Julien.
Si, parce que comment dire, le cyberpunk, en fait, grâce à des films comme Matrix, tout ça, c'est comment dire, a touché un public plus large que d'habitude. Et donc cette imagerie, ces codes ont été imprégnés dans la culture mainstream, alors que c'était plutôt une culture underground. Et on fait que tous ces codes ont été digérés, assimilés, et que pour les savoir les vendre au plus grand public, il faut finalement retirer la chair qui a en dessous, en fait. On avait vu le remake américain de Ghost in the Shell, qui était vraiment une coquille vide à ce niveau-là, qui ne faisait que reprendre pas à pas le chef-d'œuvre de Mamoru Oshii, mais sans avoir la réflexion, toute la philosophie, cette philosophie qui est d'interroger notre humanité par rapport à la technologie envahissante de nos sociétés.
Et c'est surtout la technologie envahissante de nos sociétés. On peut même aller plus loin, parce qu'on peut dire, est-ce que le cyberpunk n'est pas mort? Parce qu'aujourd'hui, on va pas se lancer dans un débat sociétal, mais est-ce que le cyberpunk n'est pas mort? Le cinéma au moins de cyberpunk n'est pas mort? Parce qu'aujourd'hui, on vit. Le cyberpunk s'est réalisé, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde profondément inégal où la technologie est partout, on est observé du soir au matin par des applis, par des algorithmes.
On est en plein dedans, quoi.
Netflix étudie le moindre de notre comportement de visionnage pour ensuite paramétrer son catalogue. Au final, on vit dans un monde où il y a des désastres environnementaux terribles, Donald Trump à la tête de la première puissance mondiale, la Chine est devenue une superpuissance elle également. On est presque dans le cyberpunk et finalement, il a plus ou moins disparu parce qu'il s'est réalisé. Mais du coup, ces films, voilà, qui réutilisent cette esthétique, qu'est-ce qu'ils en font?
Mais alors du coup, est-ce qu'on n'est pas dans du post-cyberpunk?
Ah bah oui,
parce que là, tu nous parlais du cyberpunk avec son histoire. Le post-cyberpunk, comment il se différencie, s'il se différencie par rapport au cyberpunk?
Bah là, on est plutôt dans la pour l'instant, de ce que j'en vois. C'est-à-dire que j'avais cité dans la première partie Altered Carbon, notamment, qui est aussi une production Netflix. Tu viens de parler de Ghost in the Shell, il y a eu Blade Runner 2049. Pour l'instant, on est plus dans la réutilisation des codes et des images dont on a l'impression qu'il y a un peu une certaine nostalgie vis-à-vis de ça.
On est plus dans le recyclage de ce qui a été fait avant que de créer le nouveau cyberpunk.
Parce que tu vois, je me suis aussi un peu renseigné sur le sujet. Dans le post-cyberpunk, on te décrit des héros qui ne sont plus des marginaux. En fait,
le cyberpunk s'intéressait aux petits gens.
Voilà,
exactement.
Le post-cyberpunk se focalise sur des héros qui ont un emploi, qui ont une vie de tous les jours. C'est plus tellement des marginaux. On en revient à Mute. On est dans le cyberpunk ou de le post-cyberpunk avec son héros Léo, le barman.
C'est pas du cyberpunk, mais c'est un film qui remploie quand même une esthétique. C'est-à-dire que je parlais de cet enfermement dans l'imagerie très puissante de Blade Runner ou de Ghost in the Shell. Excusez-moi, mais on est justement dans un film qui retourne comme il peut avec des décors plus ou moins carton-pâte, et comme le faisait aussi Altered Carbon, dans ces ruelles fumantes, les bas-fonds, la prostitution, les boîtes de nuit, les mafieux russes qui sont très présents dans les romans de cyberpunk, les prothèses, etc.
Oui, il y a une vraie dystopie.
Ouais, il y a un côté dystopie. Sauf que, est-ce qu'on est dans la dystopie de décors de cinéma ou est-ce qu'on est dans la dystopie qui dit quelque chose sur notre société actuelle? Et j'en ai pas l'impression. Et quand on parle de notre rapport à la technologie, confronter cette amiche à ce monde d'hyper-technologie omniprésente, et ben pour
un
moi,
point de départ qui est intéressant,
ça
ne
dit rien.
Ouais.
Donc en fait, on ne peut pas être dans un véritable post-cyberpunk.
Discours. Il n'y a pas tellement de discours.
Non, il n'y a pas de discours.
Non, c'est pour ça que je pense qu'il y a au cinéma, le cyberpunk a vraiment besoin d'être réinventé, de créer des nouveaux codes visuels ou narratifs pour pousser un peu la production à évoluer. Parce que là, je pense qu'on est vraiment dans une voie de garage, une impasse,
ouais,
où on voit toutes les limites du genre maintenant. Et on n'est plus capable d'avancer.
Est-ce que justement il y a des est-ce que vous avez en tête des auteurs, des réalisateurs qui sont qui nous prépareraient quelque chose et qui pourraient justement s'attaquer à ce genre-là pour leur donner ses lettres de noblesse aujourd'hui en 2018? Sachant que quasiment tout a été dit.
Il y a un réalisateur qui est un petit peu disparu, il me semble qu'il était canadien, c'était Vincenzo Natali. C'est celui qui avait réalisé Cube Et ensuite Splice, oui, qui est un film qui a pas tellement plu au public. Ah, oui, et oui, Vincenzo Natali, qui est quelqu'un qui... Et il avait aussi Cypher, si je dis pas de bêtises, ouais, qui est un film de SF, tout à fait sympa. Vincenzo Natali, c'est quelqu'un qui avait pour projet d'adapter au cinéma New Romancer, justement, qui est un peu un roman réputé pour être difficilement adaptable. Et c'est un projet qui, c'est dans le development hell, comme l'avait été Mute, hein, c'est-à-dire c'est un projet qui apparaît, qui disparaît, puis on l'abandonne, puis on y retourne, etc. Il me semblait qu'il y a eu un moment des tractations éventuellement avec Netflix. Je sais pas où on va
avec
arriver
Netflix
là-dessus.
Encore.
Mais tu vois, tu parlais des codes et de...
Ils ont décidé de tuer vraiment le film.
On en est là. Mais tu parlais des codes et de la réinvention des codes, Julien. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans Mute, et je sortais de la... J'avais regardé Altered Carbon il y a quelques temps avant. C'est qu'on a des scènes qui reprennent exactement la même image, la même lumière, le même décor parfois, comme il y a une espèce de club de striptease notamment, avec des personnages un peu transsexuels. Il y a des moments, je suis persuadé que si vous faites un montage sur YouTube pour vous amuser et que vous prenez des scènes de Altered Carbon et des scènes de Mute et que vous les interchangez, on y verra que du feu.
Déjà, vous pouvez mettre l'ouverture d'Altered Carbon et l'ouverture de Mute, c'est la même.
Et alors, on sort de Ghost in the Shell
dans l'eau.
C'est la même.
Et on sort de Ghost in the Shell 2016, qui reprenait ce plan de Ghost in the Shell 1995, où l'héroïne Motoko Kusanagi est dans l'eau comme ça et flotte et se laisse presque. On a l'impression qu'elle va se laisser couler. Et ben voilà, on est encore
avec un espèce de discours philosophique derrière.
Trois films qui sortent dans les années 2010 et qui sont pas, et une série, et qui sont pas capables de réinventer, qui réemploient le code tel quel, et c'est le même plan, la même image, la même lumière. C'est quand même dingue, tu vois.
Non, mais comme quoi.
Donc c'est du cyberpunk copier-coller en fait.
C'est du cyberpunk de McDo.
Et c'est ça. Il y a un moment, c'est un genre qui est né d'une volonté de dire quelque chose sur la société. Et il y a un moment, c'est pas un genre qui peut trouver sa place aujourd'hui dans le cinéma où il a été complètement absorbé par les super-héros et par tous les gros trucs blockbusters. C'est un genre qui pourra pas retrouver sa place s'il a pas quelque chose à dire et pas simplement des images à montrer.
Est-ce que vous avez des recommandations littéraires, cinématographiques de ce genre-là pour nos auditeurs qui découvriraient ce genre, qui ne connaissent pas, qui aimeraient justement s'y plonger, à part Matrix évidemment, dans les plus connus dernièrement. On va éviter Blade Runner 2049.
Ouais, on va éviter un peu.
Blade Runner tout court. C'était un film qui était intéressé par réemployer l'imagerie de son aîné et pas parler de notre société aujourd'hui. C'est-à-dire dans Blade Runner 2049, l'URSS existe encore. Parce que Blade Runner est sorti en 1982, donc l'URSS existait à l'époque.
C'était un fan film, Blade Runner 2049.
Au niveau de l'écologie, c'est toujours la cata.
Non, on peut parler de... Je pense qu'il faut aller voir Strange Days, qui est quand même un des plus grands films de SF de tous les temps.
Catherine
Bigelow, une des plus grandes réalisatrices de tous les temps. C'est avec Ralph Fiennes et Angela Bassett, super casting. Et il me semble que c'est 1995 aussi, donc l'année de Ghost in the Shell.
Et en littérature, dernièrement, si je peux me permettre... Je suis en train de lire en ce moment Bug de Enki Bilal.
Ah oui, d'accord.
Ouais, très bien. Et alors pour le coup, on est...
Enki Bilal a énormément influencé l'esthétique cyberpunk.
Et on est complètement dans le sujet là. Complètement dans le sujet, l'histoire de cette crise mondiale d'ailleurs, où tout le monde entier en fait est dédigitalisé en fait. Voilà, donc il n'y a plus rien qui ne fonctionne et c'est la crise.
Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le cinéma cyberpunk a souvent été représenté de manière un petit peu carton-pâte. Chipos, il y a des trucs assez rigolos si vous voulez aller voir, comme Johnny Mnemonic, qui est justement adapté d'une nouvelle de William Gibson.
Julien adore.
Avec Keanu Reeves, mais c'est assez rigolo à regarder.
Il y a Dolph Lundgren dedans, il y a Takeshi Kitano, il faut voir ça quoi.
Et moi je vous conseille un film qui n'est pas très connu, qui s'appelle Cherry 2000.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Qui est une espèce de bizarrerie, qui est un mélange entre le cyberpunk un petit peu déluré, parfois limite à la Terry Gilliam, c'est-à-dire complètement absurde, mélangé avec du post-apocalyptique à la Mad Max. Et c'est une histoire de mec qui part à la recherche de son androïde femme, parce que les relations humaines sont tellement complexes que les hommes et les femmes sortent avec des androïdes quoi. Et il part à la recherche de ce modèle précis, la Cherry 2000, qu'il a cassé sans faire exprès. et c'est une espèce de bizarre.
Attends, je note tout de suite.
C'est vraiment super cool à regarder, je le conseille vraiment.
Ok, bah écoutez, super, on va se quitter sur cette petite curiosité que tu nous recommandes. Redis-nous, vas-y, le titre.
Cherry 2000.
D'accord, ok.
Bon, et bien voilà, ce podcast est maintenant terminé, les amis. On se retrouve très vite hein, sur Séance Radio. Julien, merci pour ta participation.
Merci à vous.
On te retrouve sur Cinématiseur.
C'est ça.
Ok, Pierre, bon, bah, Pierre, on ne le présente plus.
Mais on se retrouve sur fanfootage.fr. Parlez-en, partagez, on en a besoin.
Voilà, le podcast sera dispo sur Séance Radio, iTunes, SoundCloud et tous les autres agrégateurs. Abonnez-vous, hashtag fanfootage sur les réseaux sociaux. On vous fait de très gros bisous et on vous dit à très vite.
Bisous.
Salut tout le monde.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.